Resto Geek.
Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux.
Va voir ici, c'est un peu la colo.
Où est-ce que vous allez?
L'appel de la distraction.
Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer.
Vous êtes magnifique.
Ah, le bâtard.
Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries.
Tardis, pour faire court.
Et bonsoir, bonjour, en fonction de quand vous nous écoutez. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. C'est votre émission où on discute de séries en tout genre, que ce soit des web-séries, des séries animées, des séries télévisées, Netflix et tout ça. Et j'ai oublié deux séries audio. Je suis Tipo et je suis présentateur principal de cette émission. Et je ne serai pas tout seul pour vous présenter des séries ce soir, puisque je suis accompagné de Stalas.
Bonsoir à toutes et à tous.
Comment ça va, Stas?
Fatigué, mais ça va.
Ah, ça c'est le fait d'avoir été voir Kaamelott hier soir.
Oui, j'imagine. Et puis tu remarqueras que pour une fois on a fait une préparation d'émission sans chanter.
C'est vrai. Et du coup, cela doit ravir notre deuxième présentatrice, Nighties.
Salut.
Ça va? Tu vas bien? Qu'on n'ait pas chanté avant le début de cet enregistrement?
Ouais, j'étais déjà fatiguée, donc il y a vite d'être encore plus fatiguée.
Ouais, bon, la prochaine fois on chantera, promis, y a pas de souci.
Ouais, t'inquiète. Ça nous mettra plus en forme.
C'est ça. Du coup, c'est l'émission numéro 23 de Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Cela fait déjà plus de 2 ans qu'on fait cette émission. Ouais, avec vous en doutez quelques pauses. Pause puisqu'on l'a fait tous les mois. Mais voilà, donc ça fait 2 ans. C'est pas mal, on est content de ce format. En tout cas, moi, j'en suis content. Et ça m'a fait quand même découvrir pendant ces 2 ans pas mal de nouvelles séries. Et pas mal de séries aussi qui sont sur la wishlist à chaque fois que Stalas part d'un animé. Mais on finira par
Elle grandit, mais elle se vide pas.
Exactement. Du coup, ce soir, on va commencer par une série animée qui s'appelle Gundam World Heroes, qui sera présentée par Stalas une fois n'est pas coutume. On parlera ensuite de La Légende de Xanta, dont on a déjà fait une écoute audio, dont Nico est déjà venu parler avec nous en live sur Twitch. Si vous l'avez loupé, dommage, il fallait vous abonner à Twitch. On parlera ensuite de la série rétro qui sera du coup Kaamelott. Cette fois-ci, je vous fais pas de surprise, je vous l'ai déjà spoilé. On parlera de la série rétro Kaamelott. On parlera pas du film, donc aucun spoil, y a pas de souci. Si vous voulez qu'on parle du film, on peut se faire une soirée un jour sur Twitch pour parler du film.
Ouais, mais
là,
je propose.
Pas de spoil. On peut très bien en parler aussi quand on fera Sea of Thieves la prochaine fois. Ensuite, on partira sur la forêt de Brocéliande, et plutôt la série Brocéliande, qui est un peu un hommage à Kaamelott fait par Capsule Pop, on va dire, qui sera présenté par Nighties. Et on finira sur une série dont on voulait parler, mais on l'a découverte après la sortie de la partie 1, on attendait la partie 2. On l'a pas fait d'émission le mois dernier, donc on va en parler aujourd'hui. C'est la série Lupin sur Netflix avec Omar Sy. Et c'est moi qui vous en parlerai. Et vous verrez bien mon avis tout à l'heure. Mais écoutez, on a vraiment de bonnes séries aujourd'hui. Il y a juste Gundam World Heroes que je connais pas trop. Mais
C'est des Gundam, normalement, je sais bien.
Ouais, Gundam, c'est pas un truc comme Goldorak et tout, là.
Non.
Ok. Ouais, c'est des mechas, des robots, ouais, est-ce que comme ça.
C'est des Transformers, quoi. Ok, et écoute, Stalas, vu que je connais pas trop les Gundam, etc., je te laisse commencer et me présenter tout ça.
Alors, SD Gundam World Heroes, parce qu'il sait toujours pas prononcer les mots anglais. C'est une série animée.
Ouais, ça va, Gundam World Heroes. Je savais juste pas que le SD en faisait partie.
Heroes.
Oui, ça se prononce Heroes.
Heroes, oh, ouais. Sonic Heroes. Ah, ouais, vous avez raison.
Bah, je sais que j'ai raison. donc, une série qui a débuté y a un petit moment déjà, puisque ça fait 3 mois qu'elle est en parution, donc depuis un peu avant mi-avril, qui compte en ce moment 15 épisodes. D'ailleurs, je pense qu'au moment où on libérera ce Tardis 23, il y en aura 16. Donc en genre, c'est un Gundam FSF. Donc qu'est-ce qu'un Gundam? Mais c'est un Gundam. C'est l'inverse d'un gun monsieur.
Mon nom, c'est un trait d'humour.
Non, un Gundam, en fait, ouais, c'est une... C'est un genre où, en fait, c'est des mechas, donc des machines qui sont... qui remplacent les humains pour faire l'histoire, tout simplement. Pour faire un résumé très court, c'est ça. Pour le synopsis, je vous avoue, je me suis beaucoup plus embêté à faire le résumé que le synopsis. Le synopsis, je l'ai piqué, donc... il convient pas très bien, mais c'est pas grave. Lorsqu'une météorite s'abat sur Neo World, c'est le début du chaos. Un jeune homme est trouvé sur les lieux de l'incident. Il est la clé. Mais apportera-t-il la paix ou mènera-t-il le monde à sa fin? Les Gundam vont devoir sauver l'univers de cette crise sans précédent.
Le jeune homme, du coup, c'est un jeune homme humain ou un jeune homme Gundam?
Non, c'est un mecha.
Ok.
Parce que les mechas ont quand même un âge. Et un
grade. Oui, non, mais c'était pour être sûr.
Non, bah écoute. Donc en fait, le résumé, c'est juste... Alors le jeune homme, en fait, il s'appelle Goku, tout simplement. Il a un peu des caractéristiques d'un singe. D'ailleurs, quand il s'écrase, c'est un singe géant.
Ok, on comprendra la référence.
La référence, c'est la pérénération vers l'ouest, voyons, bien entendu. Ou Dragon Ball, au choix. voilà, donc en fait, il arrive, il se pète la gueule dans une ville qu'ils appellent Captain City, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Enfin, dans une ville où il sème un peu le désordre. Ensuite, il est viré de cette ville à grands coups de grands canons qui l'emmènent dans une autre partie du monde. Où là, il rencontre ce que je vais appeler les personnages principaux qui sont Liu Bei et Sang Jifu. Je sais plus, pardon, je n'ai pas retenu son nom. C'est un nom chinois des trois royaumes que j'ai pas retenu. Que j'arrive pas à retenir, mais c'est Zhang, je sais plus quoi. Où là, en fait, il a repris son apparence un peu plus normale, et puis on apprend que ce jeune garçon est amnésique, donc on va un peu le suivre. En même temps, il y a Zeng qui apprend qu'il y a un danger qui arrive droit sur leur monde, qui s'appelle la comète de G, je crois, un truc comme ça. Enfin, en gros, il y a un mal étrange qui arrive de l'espace sur leur planète et qui risque de le détruire. Il y a un individu dont sa planète a été détruite à cause de ça, qui leur apparaît par hologramme réalité, je sais pas comment ça fonctionne. Pour leur dire, ouais, en fait, vous pouvez sauver votre planète si vous réussissez à rassembler les 5 arrows, je reviens après sur ce que c'est, et que vous les amenez à la pyramide. Donc les gars, ils disent, ok, pas de problème, on va faire ça.
Une fois que tu as rassemblé les 5 arrows, il y a un dragon vert qui apparaît et qui exauce son vœu.
Non, ça c'est si t'en rassembles 7.
Ah, pardon.
Donc en fait, les arrows, qu'est-ce que c'est? Les arrows, c'est des petites boules, en fait, de méca... c'est des petites boules méca... Non, mais pour de vrai, en plus.
Ah putain.
Tu trouveras une image pour la mettre à ce moment-là, parce que c'est vrai que du coup ça fait très Dragon Ball, mais rien à voir. En fait, c'est des... Imaginez des boules de pétanque avec deux petits espaces qui leur permettent de voler comme des oreilles et des yeux. Voilà, Tipo est en train de chercher du coup.
Vous aurez ça sur la vidéo.
Voilà, vous allez voir ça, parce que vous verrez mieux. Et donc ça, apparemment, c'est une technologie du passé qui permet d'augmenter les pouvoirs d'augmenter les pouvoirs des Gundam. Par exemple, Liu Bei en a un. Et en fait, dans le monde, il y en a 5, et il y a 5 mondes dans le... Et comme l'anime est bien fait, il y a 5 mondes qui composent le monde en général, et du coup, il y a un arrow par monde. Pour les mondes, vite fait, il y a un monde très japonais, japonais Moyen-Âge, il y a la Chine Moyen-Âge, où se passe le début. Il y a un monde un peu plus moderne, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il l'est. Un monde un peu plus Moyen-Âge, mais de notre... Enfin, d'Occident, donc d'Europe. Ouais. Et le dernier, c'est un monde de pirates. Voilà.
Il y a un truc avec les pirates, en ce moment.
Ouais, bah là, il y a un pirate, et c'est fort cool. La partie avec les pirates, c'est fort cool. Donc, du coup, ces petits... Enfin, Liu Bei et sa bande vont partir à... Liu Bei va partir et sa bande avec Goku vont partir à la recherche des arrows, et leur but c'est de rassembler les arrows tout simplement et de les amener à la pyramide. Donc bien entendu, de toute façon, les arrows sont bien planqués puisque c'est des artefacts mystérieux. Bon, ce qui n'a pas empêché d'en trouver 5, d'en trouver 3 en bout de 8 épisodes à peine. Donc c'est pas si mystérieux que ça finalement pour les trouver, je pense.
S'il a plus galéré dans Uncharted.
Ouais, voilà. C'est ça. On va envoyer Nathan Drake dans le monde des Gundam, histoire de deux séries. Ça suffit. Enfin bref. Bon voilà. Donc et du coup on va suivre un peu leur pérénigration. Non. leurs aventures, c'est plus simple parce que je sais pas dire l'autre mot. Leurs aventures en fait pour trouver les héros, donc ils vont de toute façon affronter les locaux qui sont pas forcément d'accord, même s'il y en a qui pour la plupart du temps ils vont s'assembler, ils vont trouver un masque en fait qui une fois mis va exacerber les côtés négatifs comme la jalousie, l'envie et la colère, donc il va rendre les Gundam très très méchants. Donc sur ça aussi apparemment ils vont devoir se battre, ils rencontrent un ennemi qui a été vaincu. Mais comme il n'y avait pas de série d'avant, en fait, ils mettent ça dans des flashbacks et dans des histoires. Mais cet ennemi a refait surface. Donc voilà, finalement, il y a plusieurs mystères qui sont lancés. D'où viennent les héros et qu'est-ce que c'est ? Finalement, qu'est-ce que c'est que cette pyramide ? C'est quoi qui va tomber sur leur monde ? Qui est vraiment l'ancien ennemi ? C'est quoi ces masques ?
Et du coup, c'est dessiné ? Ou c'est des modèles 3D animé.
Alors ça ressemble beaucoup à de l'animé là pour le coup. Alors de l'animation
dessinée, tu veux dire.
Oui, c'est de l'animation dessinée, mais c'est des dessins faits par ordinateur par contre. Ça c'est quasiment sûr.
Il y a même plus personne qui font des dessins.
Je pense qu'il y a encore quelques studios pour certains vieux trucs, mais ouais, on est passé à du dessin de toute façon sur tablette parce que un peu plus rapide, tu peux faire moins de dessins, c'est plus écologique, plus économique. T'as besoin de moins de gars, donc ouais, effectivement, beaucoup de studios sont passés là-dessus. Donc du coup, c'est pour finir avec un avis. Bon animé, ça peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes, ça c'est bien, parce qu'il y a quand même des côtés assez cool, bien. Ça. Et c'est bourré de références, parce que dans tous les royaumes, il y a des références, c'est simple.
Ouais, par ça exemple, a l'air d'être très très référence. Ouais, ouais.
Pour faire rapidement les références, dans Kingdom World, vous avez Arthur Merlin, Robin des Bois. Dans le premier monde qui est vu là, qui est fait par un peu dévasté par Goku, c'est moi ça fait beaucoup penser à Robocop. Et en plus ça y a Arsène Lupin dedans. Enfin il y a Arsène Gundam X qui est pas un cambrioleur, qui est un sale chargeur de trésor.
À toi qui cherchais un lien avec Lupin, il y en avait un.
Ben non, mais c'est pas avec Lupin que je cherchais un lien, c'est avec Zanta. Dans le monde des pirates, il y a un Benjamin et l'autre c'est un capitaine pirate très connu. Dans le Japon, vous avez Nobunaga, Sasuke, enfin des grands noms de l'histoire japonaise de cette époque. Et là, dans les personnages principaux, vous avez par exemple Liu Bei, qui est un des personnages principaux des histoires des trois royaumes en Chine.
Eh ben tu vois, ça m'intéressait pas du tout. Mais bon, si j'avais le temps, j'y serais curieux et j'ai regardé 2-3 épisodes.
Franchement, ça se laisse regarder tranquille.
Bah ouais, écoute.
En plus, ça c'est cool. Ça. Et puis après, en termes de référence, bon, vous avez Goku qui fait autant pérénigration vers l'ouest que Dragon Ball, mais comme Dragon Ball est très très fortement inspiré de la pérénigration vers l'ouest, ça va.
Ok. Une petite note ?
Gundam sur 10 ! Et plus sérieusement, je vais mettre un 8, allez.
Un 8, ok, cool.
Parce que j'attends de voir comment se déplace la narration.
Super. Bah, merci Stalas pour SD Gundam World Heroes. Merci beaucoup.
De rien, avec plaisir. Allez le regarder.
Rien à rajouter, c'est trop de choses à l'intérieur pour moi.
Du coup, je vais passer à la légende de Xanta. Voilà, la légende de Xanta, la suite de la fameuse série Adoprix Toxis. Si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de dire depuis 20 secondes, c'est tout à fait normal. Un petit récapitulatif. Nico et Matt ont écouté les séries audio, Nalbuck, etc. Et un jour, se sont dit, mais pourquoi pas nous ? Et ont créé leur saga audio qui s'appelle Adoprix Toxis. Alors, avec les moyens du bord, donc il y avait beaucoup de blagues un peu moins travaillé, on va dire. La qualité audio était pas comme les premiers épisodes, quoi. C'était fait à la bonne franquette, on pourrait dire, sauf que c'est de l'audio. Mais voilà. Et du coup, ça a donné une histoire quand même à Topic 6 qui est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bien. Je vous invite à aller l'écouter. Puis ils ont fini cette saga de Prixoxys il y a un petit moment déjà. Je sais pas si j'ai les dates parce qu'ils les mettent pas forcément. Je peux vous retrouver ça. Et ensuite, ils ont créé une autre saga qui est à la base. Alors là, je vous raconte ce qu'on a pu échanger avec, avec Nico lors du live qu'on a pu faire et où il est venu discuter. Donc, Prick Success, ça s'est terminé en 2009. Voilà. Et du coup, il est venu nous raconter. En gros, ils ont voulu faire une histoire un peu qui se passait un peu dans le même monde, mais qui était totalement. Qui était 300 ans après Exanta. L'histoire d'un homme qui est en hibernation dans une capsule et on ne sait pas pourquoi, et il détiendrait le secret de Xanta, une mystérieuse planète. Je vous donnerai pas le nom en entier parce qu'il est trop long. Et puis finalement, en l'écrivant, ils se sont dit, et si c'était Gloomy? Et ils ont fait plein de liens comme ça. Et du coup, on retrouve Gloomy, qui est un des personnages principaux d'Adroprixoxis. On retrouve Zuglu aussi. Et on retrouve de nouveaux personnages, un Gronf. Je me rappelle plus de l'espèce de.
Un Géménien,
et puis un peu plus humanoïde, on va dire. Et donc, on retrouve tout cet équipage qui réveille Gloomy, qui, du coup, d'un coup, ils ont réveillé Gloomy. Tout l'univers est à la recherche de Gloomy d'un coup sur lui. Enfin, ils sont tous à la recherche de Xanta, mais là, ils sont tous à la recherche de Gloomy qui posséderait le lien vers Xanta. Ensuite, des péripéties, il rencontre la General Toxine, qui est une achate, un espèce chat, ce qui ne plaît pas à l'espèce Gronf, qui est une espèce chien. Hein. On a plein de trucs comme ça. Ils finissent par arriver sur une planète qui s'appelle Green 18, qui est une espèce de...
Hunger Games.
Merci, je cherchais. De Hunger Games, des flingues. Enfin, tous les prisonniers sont mis là-dessus, alors si tu veux participer librement, t'y vas. Et le but, c'est de survivre avec les flingues, etc. Donc, et c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est pire que Hunger Games, mais c'est extrêmement drôle, avec des RALC, des règles à la con, qui te, par exemple...
Marcher avec le pied.
Voilà, ou chanter à tue-tête, alors que tu
as envie
d'échapper à des gens. Donc voilà, pas mal de petits trucs comme ça, donc une histoire vraiment, vraiment riche, avec pas mal de questions, surtout après l'épisode 8. Et l'épisode 9 est sorti, il s'appelle Dave, il est sorti il n'y a pas longtemps. Si vous ne le savez pas, foncez dessus. Si vous n'avez jamais écouté la saga, foncez sur tous les épisodes, qui répond à beaucoup, 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 beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, j'avais dit que je réécouterais, j'ai pas encore réécouté, mais si, j'ai réécouté en fait. Mais j'ai pas eu encore d'autres interrogations, je sais pas où on va après. Mais en tout cas, ça a répondu à pas mal d'interrogations. Et c'était plutôt cool. Et du coup, ça c'est niveau histoire. L'histoire est vraiment écrite. Alors, comme je disais à Nico justement, l'épisode 8 par exemple, déjà on a fait un bond entre la qualité audio d'Adroprixoxis 6 et Xanta. On a fait un bond aussi sur les jeux d'acteurs, etc. Il y a de très très bons jeux d'acteurs. Il y a le Mago, il y a, rien que dans l'épisode 9, si je vous retrouve vite fait, la petite fiche. Il y avait le Mago, il y avait Merwin, il y avait JBX, le créateur de Reflet d'Acide, Destrocorn, Petulia, Mr. Fox, P-Wheel, Papy et Al, Wolf ou Dr. Wolf? Ah, Dr. Wolf, je l'aurais dit, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, vraiment des très très bons acteurs au niveau de la série audio. Si vous ne connaissez pas la série audio, pour ceux qui sont dans la série audio, c'est des grands noms. Et du coup, niveau histoire, très bien. Niveau qualité, oui, voilà, j'étais sur la qualité, pardon, excusez-moi. Donc la qualité, vraiment un bond de folie. Et la qualité, l'épisode 8 était vraiment un épisode avec tellement d'action, tellement bien fait niveau action, etc. Et je trouve que l'épisode 9, je pense que Stalas, tu me rejoindras dessus, Nightis aussi, hein, est une perle d'écriture. Il est extrêmement bien fait, avec plein de petits flashbacks à l'intérieur, mais vraiment bien géré. Pas Star Wars 8, quoi. Et d'un autre côté, c'est pire de faire. C'est chose de faire pire que Star Wars 8. Enfin voilà, vraiment un bijou d'écriture. Et voilà, je pense que j'ai fait assez d'éloges sur Xantai. Je ne saurais même pas dire des défauts parce que c'est vraiment oufissime. Si les défauts, c'est que peut-être les épisodes sont un peu longs, mais bon, faut bien raconter des trucs.
Non, le gros défaut, c'est si tu... Comment dire ? Si t'es pas attentif, tu rates vite quelque chose ou tu te perds vite dans les personnages.
Ouais, ça, et toi, en fait, comme t'aimes pas trop les séries audio et que t'as ce problème-là, je pense, de repérer les personnages, c'est pas plus vite arrivé
qu'à l'autre. C'est ça. Mais sinon, elle est très très bien.
Et toi, Stalas ?
Moi, j'ai pas eu le problème de lâcher l'épisode, moi.
Ah non, j'ai pas eu le problème non plus.
Moi j'ai écouté même l'épisode 8 que j'avais pourtant réécouté il y a un peu avant notre écoute du 9. Je l'ai réécouté du coup, je pense, pour la deuxième ou troisième fois en moins d'une semaine. Je l'ai réécouté sans me lasser.
Ouais, non. L'écriture du 9, est-ce que t'es d'accord que c'est un bijou?
Ah ouais, non, mais si. Déjà, le 8 était vraiment bon d'un point de vue montage avec les sons. Mais bon, c'était vraiment, comme tu disais, beaucoup énormément d'action. Mais là, le 9 avec le 9 où du coup c'était beaucoup énormément de flashbacks et de flashbacks, de retour en arrière, de retour dans le temps, enfin dans le retour de présent et de révélation, ouais, effectivement.
Ouais. Ah voilà. Que veut dire de plus à part vous dire d'aller l'écouter. Vous pouvez écouter Xanta sans avoir écouté Adobe Xexis. Vous manquerez quelques références. Mais jusqu'à l'épisode 8, on va dire qu'en fait, il y a des choses que nous, on avait commencé à imaginer avec Stalas parce qu'on connaissait Adobe Xexis, que vous imaginerez peut-être pas. Mais avec l'épisode 9, vous êtes remis au goût du jour. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour comprendre la suite de la série. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter Adobe Xexis si vous le voulez. Après, Adobe Xexis, c'est de la bombe aussi, donc allez l'écouter.
Je confirme.
Voilà. Je vais m'arrêter là et mettre un beau 10 sur 10 pour Xanta parce que ça les mérite largement. Merci à Nico et Matt pour cette incroyable série. Merci à Nico et Matt pour l'écriture, etc. Et à Nico pour le montage. On passe à la série rétro du coup ?
Oui.
Eh ben attends, ça veut dire que c'est encore moi là.
Eh ouais. C'est parti.
Il y a des sons comme ça que quand tu entends, même si tu n'es pas connaisseur, tu es censé savoir de quelle série nous allons parler.
C'est vrai.
Voilà. Et donc là, c'est Kaamelott. Alors, pour revenir sur ce qu'est Kaamelott, bah déjà, on va... Comme c'est une série rétro, on va donner les dates de début et de fin. Alors, ça a commencé... la diffusion a commencé en France. Mais de toute façon, il n'y avait qu'en France, donc ça ne sert à rien de préciser. Mais la diffusion a commencé début janvier 2005. Et le dernier épisode est sorti pour la première fois le 31 octobre 2009. Voilà.
Ah bah tiens, comme le dernier épisode de The Prixoxys. Enfin, c'était pas le 31 décembre, mais c'était en 2009, quoi.
Ouais, enfin surtout c'est le 31 octobre.
Ouais.
Donc le nombre d'épisodes. Alors j'ai eu un doute parce que pour le nombre d'épisodes, j'avoue que j'avais la flemme de compter. Et puis finalement, quand j'ai vu sur Wikipédia qu'il disait 458, j'ai fait « Ah, c'est pas impossible ». Ça me paraissait bizarre, mais c'était pas possible. Et puis quand j'ai vu que ensuite ils mettaient du livre 1 à 3 sans épisode, j'ai fait là, mais les mecs, vous avez fumé, j'arrête de vous écouter. Donc il y a 416 épisodes. Du coup, je les ai comptés. Il y a 416 épisodes. Donc des livres 1 à 4, vous avez 399 épisodes. Et ils font tous à peu près en moyenne 3-4 minutes. Voilà. Il y en a un qui se libère un peu du lot, qui fait un peu le double de la moyenne, mais voilà. La moyenne est à 3-4 minutes. Dans le livre 5...
C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il fait 399 et pas 400.
Ouais. Parce que du coup, il y en a un qui cause en double. Dans le livre 4, je crois. Le livre 5, vous avez plus que 8 épisodes. Mais chaque épisode fait à peu près 50 minutes. Et le livre 6, vous avez 9 épisodes. Mais les épisodes font à peu près 40 minutes. Donc vous voyez bien qu'au début, c'était des petits sketchs, des petites scénettes. Et que à partir du livre 5, Alexandre Astier est passé sur des écritures de très longs courts-métrages. De mini-films même. Pour ne pas bouder son plaisir, des mini-films. Alors, pour le synopsis. Alors le synopsis, je vais le faire très court parce que je pense qu'on va un peu plus s'étaler dans le résumé. Mais alors le synopsis, c'est une revisite des légendes arthuriennes. Voilà, point barre. Si vous voulez faire un résumé un synopsis de Kaamelott, je pense que là c'est le plus clair possible. Après sinon faut vous passer dans un résumé. Bah d'ailleurs, en parlant de résumé, c'est bien fait. Donc en fait, des livres 1 à 4, c'est surtout le quotidien d'Arthur et de ses proches. Donc les chevaliers de la table ronde, sa belle famille, etc. Dans le quotidien, donc après le quotidien, bah, y a les réunions de la table ronde, les quêtes que font Arthur et ses chevaliers, ou les chevaliers sans Arthur, ça marche aussi. Les problèmes d'amour, que notamment d'Arthur d'ailleurs. La recherche du Graal, qui est quand même leur quête principale. Voilà, c'est ces trucs-là, et on essaie de tourner un peu à la comment pourrais-je dire, au romancé pour faire, au romancé et à l'humour, voilà, romancé comédie. Dans le livre 5, on passe à un truc un peu plus désespérant, dans un genre un peu plus noir, un peu plus désespérant, j'ai envie de dire. Puisque du coup là en fait Arthur a reposé Excalibur, il a pas réussi, non d'ailleurs c'est n'importe quoi. Arthur a reposé Excalibur et en fait il va partir à la recherche de sa descendance, parce qu'il trouve quand même qu'avec toutes les maîtresses qu'il a eues, c'est pas normal qu'il ait pas d'enfant. Et il va apprendre une très mauvaise nouvelle qui va un peu qui va fortement le chagriner. Et lui qui est d'un naturel dépressif va là carrément sombrer. Et voilà. Et dans le livre 6, on a un énorme flashback qui fait 8 épisodes, je crois d'ailleurs.
Bah toute la saison sauf le dernier épisode.
Ouais, c'est ça, donc 8 épisodes. Me coupe pas pour dire les trucs que je viens de dire. Donc 8 épisodes où en fait pendant les 8 épisodes on a la entre guillemets jeunesse d'Arthur, où en fait on apprend juste comment Arthur est passé du camp romain du royaume de l'homme, voilà. Et on apprend alors ainsi un petit coup de spoil, mais c'est vraiment à la toute fin, on apprend aussi comment Lancelot arrive au pouvoir et qui fait du coup prévalence au film qui est sorti depuis 3 jours maintenant,
depuis le 21 juillet. Ouais,
c'est ça, 21. Exactement. Exactement.
12 ans après la fin de la série.
Exactement. Donc voilà, bon, c'est des résumés. Je sais pas si vous voulez ajouter un peu de résumé pour hyper les gens, mais.
Après, pour vu qu'on a tous vu Kaamelott, pour te prendre une partie de la critique, les 4 premiers livres du coup sont assez humoristiques, puisqu'ils racontent toute la vie, tout le quotidien, comme tu disais, d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Qui est plutôt sympathique. On y voit quand même des signes avant-coureurs de ce qui va donner le livre 5, avec Arthur qui se désespère, etc. On le voit déjà dès la saison 1. On voit aussi les envies de Lancelot aussi dès la saison 1. Il y a vraiment un truc en fait qui paraissait pas à l'époque, mais qui était dans la tête d'Alexandre Astier depuis un petit moment, et qui a été réfléchi pour aller vers ce truc-là. Alors après, forcément, il a une ligne directrice, ça a dû souvent changer dans sa tête, mais il avait quand même déjà l'idée des grosses lignes principales du truc, et c'est plutôt cool, parce que ça donne quelque chose de vraiment impressionnant, et extrêmement bien écrit, et surtout, et une des choses pour laquelle il se vante, et je trouve qu'il a raison de se vanter, il se vante. C'est l'explication en tout cas qu'il donne quand on lui demande pourquoi Kaamelott a autant marché, pourquoi il pense que Arthur c'est un vrai héros, etc. Et pourquoi ça a marché. Arthur est un héros qui faiblit et qui échoue. Et ça on en a rarement, voire très rarement au cinéma, hein. Quand vous regardez Marvel, etc., ils échouent pas vraiment, hein. On va pas se mentir. Et là, on a vraiment un héros qui échoue, qui abandonne, qui est au pied du mur, qui va même sombrer très 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 profondément, et pour revenir plus fort plus tard, puisqu'on le sait, on le savait tous que Arthur reviendrait après la fin de la série. Après, je vous laisse voir si c'est dès le premier film ou la suite, mais voilà. Donc, au-delà du côté humoristique, il faut, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont aimé les trois premiers livres, le 4 un peu moins parce que c'était un peu humoristique et ont détesté le 5 parce qu'il n'était pas humoristique. Il faut y voir plus une histoire vraiment profonde, et c'est plus moi qui m'a plu dans Kaamelott. Et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que je préfère le livre 5 aux autres livres. Ça laisse une petite note.
Kaamelott sur 10.
Okay, Kaamelott
non, mais 10. Il n'était pas obligé de le dire. Hein. 100 sur 10, 10 sur 10, cœur sur 10. J'en reviens même, je pense.
Ouais, non, là, franchement, je peux pas mettre point en fait.
Ouais, pas de soucis. Et si on faisait encore des questions, j'aurais posé une petite question sur Demetra, sur l'actrice. Vous l'avez forcément entendu en étant jeune, en regardant un animé avec une bande d'amis qui résout des mystères. Et c'est.
Vera ou Daphné ?
C'est Vera.
Vera.
Elle joue Vera, voilà.
Dans Scooby-Doo !
Ouais, double Vera.
Et oui. Ben, merci Stalas. On passe à une autre série, une web série qui reste dans le ton de Kaamelott.
Directement. Tu disais extrait pour commencer.
C'est ça. Mais qu'est-ce donc, messire? C'est une carte, Graham. Que dis-je, une carte? La carte, celle qui nous mènera directement au Saint Graal. Allons prévenir notre bon roi Arthur.
Ouh! Ah ouais, on l'a pas loupé, celui-là.
Et voilà, petite web-série qui provient d'un projet Ulule, d'un crowdfunding, et qui s'appelle Brocéliande. Du coup, web-série humoristique, comme vous avez pu entendre dans le petit extrait, on parle du Graal, web-série qui rend hommage à Kaamelott. On va retrouver cette fois l'opposé de Kaamelott, de la table ronde et de la quête du Graal, puisque Brocéliande va nous présenter les créatures magiques qui s'opposent à Arthur. Donc, comme j'ai dit, c'est un crowdfunding qui a été fini en 2020 et qui permet du coup d'avoir 8 épisodes de 5 minutes, à peu près, qui sont dans le même thème que les premiers épisodes de Kaamelott. Petits épisodes humoristiques de 5 minutes où on va voir des personnages discuter, combattre, faire des conneries. Pas dire beaucoup plus comme ça sans spoiler. Pour l'instant, 2 épisodes sont déjà sortis sur YouTube. Un premier épisode où, comme vous avez pu entendre dans l'extrait, 2 personnages de la table ronde trouvent une carte menant au Graal et se font tuer par justement des créatures magiques, des elfes plus précisément. Et petit indice, dans cet épisode, vous pouvez entendre en fond sonore la référence du tout premier épisode de Kaamelott.
C'est ça ?
Exactement. En fait, vous voyez quand Perceval lance un caillou ?
Ah, c'est pas... je pensais à Cardoc, moi, du coup.
Ils sont juste en face. Ils se prennent le caillou dans la web-série.
Trop bien.
C'est penché comme ça, en fait, vraiment en épisode qui te fait le contre-champ du premier épisode de Kaamelott.
C'est trop bien.
Et le deuxième épisode est dans la même veine, où cette fois on retrouve un orc et autres qui sont dans la bataille. Et pareil, en contre-champ, vous imaginez Arthur et tout le monde avec la corne pour faire la retraite, les drapeaux en V, etc.
Oh purée, ça donne tellement envie.
Ça donne envie, hein.
Franchement,
en plus, on a du boulot dans tout ça. Puisque dans le premier épisode, les deux elfes sont joués par, que je vous retrouve le nom, Benzaï et Sheshune, deux youtubeurs assez connus. Et le deuxième épisode, on retrouve 3 acteurs, Iron Quest, Pierre Grenier et Jano Ninouche. Même si les noms ne vous parlent pas vraiment, une fois que vous voyez leur tête, vous savez, je l'ai déjà vu quelque part celui-là. Donc... pour moi, Brocéliande, c'est une bonne web-série qui reprend le ton des premiers livres de Kaamelott, qui fait des bonnes références avec les contre-champs des épisodes de Kaamelott, et avec un bon casting, parce que c'est très bien joué, il y a une bonne qualité visuelle et audio aussi, dedans.
Il n'y a plus qu'à aller voir dans Kaamelott le film 3.
On ne sait jamais. Mais clairement, bah, du coup, j'ai envie de savoir la suite, j'ai hâte que les épisodes 3, 4, 5, jusqu'à 8 sortent.
Je sais pas pourquoi ça parlait, mais là, je suis hyper hypé.
Bah moi non plus, j'ai été voir, et puis je me suis dit, vu qu'on parle de Kaamelott, autant parler de celle-là, vu qu'elle vient de sortir il y a moins d'une semaine.
Ouais.
Donc, franchement, je vous dis, en moins de 10 minutes, vous avez vu les 2 épisodes, foncez, c'est top. Moi, j'ai bien rigolé, et j'ai beaucoup apprécié les références, et d'entendre le petit contre-champ Kaamelott derrière, c'était sympa.
Trop cool.
Et puis... ou du coup, une petite note, pour l'instant, je mettrai 8 sur 10 parce que j'attends de voir la suite quand même, mais ça annonce du bon et je pense qu'à la fin de la saison, je pourrais peut-être monter à 10.
Et bien, merci Nighties, et on va passer sur la dernière série.
Oui.
Une série qu'on a beaucoup appréciée avec Nighties. Je crois que celle-là, ça, tu l'as pas vue encore.
Non, mais j'avais un lien avec.
T'avais un lien avec, effectivement.
C'est vrai.
Et je vais vous parler de la série Lupin, sortie en 2021 sur Netflix. Donc au début, c'était sorti au début de cette année. Ah oui,
oui.
Ils ont fait vite pour sortir la deuxième partie. En 2 parties du coup, avec des épisodes de 40-50 minutes. Et une première partie avec 5 épisodes, une deuxième partie avec 5 épisodes. Enfin, partie, saison, vous appelez ça comme vous voulez. Du coup, on retrouve le jeune Asad. En fait, je vais vous passer le teaser et puis après on va en parler.
Imaginez, vous héritez d'un trésor. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais petit, j'ai hérité d'une fortune. Un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et m'a légué tout ce qu'il avait. Des richesses incroyables, des ressources inépuisables, et plusieurs vies pour en profiter. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire.
Voilà, ça c'est pour vous mettre un peu en hype et vous aurez, je pense, reconnu, si vous ne l'avez pas vu, les affiches, etc., la voix d'Omar Sy qui joue Hassan Diop, qui s'inspire de Lupin. On va mettre tout de suite les choses au clair. On pouvait avoir peur, en tout cas, du fait de se dire « Mince, Omar Sy va jouer Lupin. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Ils vont essayer d'adapter Lupin en mode classique. Ça va être en mode dans notre époque. Ça va peut-être être chelou, etc. » Pas de souci. C'est juste une simple personne qui s'inspire de Lupin en soi. Après, c'est pas qu'une simple personne, puisqu'il fait quand même pas mal de choses, mais voilà. Donc c'est plutôt cool de ce niveau-là. Au niveau du scénario de fils, en fait, dans le premier épisode, vous allez retrouver le jeune Hassan Diop, qui en fait va voler un collier, et on va apprendre que ce collier, en fait, il est lié à la mort de son père. Et du coup, tout va s'enchaîner autour de ça, dans ces deux parties en fait, et le but va être de faire tomber ceux qui ont fait en sorte que son père soit accusé du vol du collier. Vous comprendrez un peu plus en regardant, je ne vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, mais en gros ça c'est l'histoire. Elle est extrêmement bien écrite et elle est vraiment très prenante. Je vous préviens, si vous voulez commencer la série, ne la commencez pas en mode oh, deux épisodes avant de dormir. Non, c'est deux épisodes, je commence mon après-midi et je finis la série dans la soirée. Je vous préviens, ça risque de faire ça, sauf si vous n'aimez pas, et dans ce cas-là, bah, ça se rentrera très vite. Mais si vous aimez, il y a de fortes chances que ce soit très addictif et que vous y alliez très très vite dans la série.
C'est comme ça que vous vous retrouvez à 2h du matin à regarder le dernier épisode.
C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, on retrouve Omar Sy en tant qu'acteur, on retrouve Hassan Diop en jeune qui est joué par Mamadou Haïdara, que je connaissais pas du tout, et qui a un jeu d'acteur magnifique. On retrouve aussi plein d'autres personnages, dont Ludivine Séné aussi, dont j'aime beaucoup le jeu d'acteur. Et plein d'autres acteurs, je vous laisserai aller voir l'affiche. D'ailleurs, dont un acteur que j'ai vu dans je sais plus trop quoi. Si, que j'ai vu dans... Non, il y a un des policiers joue dans la série Into the Night, dont on a parlé il y a un petit moment déjà.
L'année dernière, je pense.
Voilà, l'année dernière. Bon, bref, ça c'est pour le petit truc. Donc voilà, en gros, donc très bons acteurs, très très bonne histoire. Et en gros, les épisodes vont se dérouler avec généralement une histoire à l'intérieur. En fait, elle est finie. Ça fait avancer le fil rouge, mais l'histoire généralement est finie à l'intérieur. Et par exemple, le premier épisode, on découvre en fait comment il va voler le collier. Et c'est vraiment extrêmement bien écrit. Moi, alors, Nighties avait peut-être un peu plus vu venir que moi. Mais il y a vraiment certains trucs que j'avais pas vu venir. Et t'as vraiment tout plein de petits trucs qui se mettent en place dans tout le truc. Et ce qui est agréable, c'est qu'à la toute fin, en fait, il te réexplique tout avec tous les petits détails que t'aurais pu louper. Parce que des fois, tu vas en voir des détails, mais t'auras pas tout. Il va te manquer des petits ponts. Et il te réexplique vraiment tout. C'est vraiment extrêmement bien réalisé, extrêmement bien écrit, je trouve. L'histoire est plutôt captivante. Et le fait que ce soit une inspiration de Lupin plutôt que Lupin lui-même, j'ai trouvé ça plutôt plus intéressante. Surtout que du coup, on a eu une histoire en fait à Hassan Diop, il a une ex-femme. En vrai, il s'aime toujours, mais son ex-femme supporte pas sa vie. Je suis pas sûr qu'elle sache exactement que c'est Lupin, mais elle doit s'en douter un peu que sa vie est pas top. Et il a un fils aussi. Et du coup, ça lui donne une vie de famille en plus de ça, qu'il essaie de concilier,
oui.
Et du coup, vraiment, très très bonne série. Je sais pas si Maxi, tu veux rajouter des trucs sur ce que j'ai dit.
La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, je vais pas regarder, j'ai trop peur de qu'il dénature Lupin et ça va pas me plaire. Et finalement, bah, du coup, Tipo a voulu regarder, et on a regardé, et c'était cool. Je suis pas autant fan que lui.
Ah, moi,
j'aurais pu m'arrêter avant de regarder la suite, mais c'était très sympa à regarder. Et j'avoue que je me suis laissé surprendre par quelques manigances de Lupin. J'en ai vu venir certaines, mais pas toutes.
Ouais, non, c'est... Ça fait du bien de voir une série comme ça en France, en fait. Très franchement.
Oui.
Ça fait du bien.
Ça, je suis d'accord.
Merci Netflix de pouvoir l'avoir financé, mais du coup, ça fait vraiment du bien. Parce que je trouve qu'en France, on a quand même pas beaucoup de bonnes séries qui n'est pas de la comédie. Donc, on a Kaamelott dont on vient de parler. J'allais dire, fais pas si peu, fais pas ça. Mais non, c'est totalement une comédie. Il y a les petits meurtres en famille. Ou c'est les petits meurtres d'Agatha Christie.
Les petits meurtres d'Agatha Christie, oui.
Sur France 2, qui sont aussi très bien écrits. Mais on n'a pas de grosses séries comme ça qui françaises de... Parce que là, en plus, il y a pas
mal
d'effets spéciaux.
Il y a quelques gros
policiers,
mais oui, je sais pas non plus...
Oui, non, mais les policiers, c'est Louis la Brocante, etc.
Non, je parlais plutôt des types Engrenage et autres qui étaient sur Canal.
Ouais, voilà. Ouais, Canal a quelques bonnes séries quand même aussi, c'est vrai. Mais je trouve qu'on manque un peu de ce genre de choses et qu'on a tout le temps comédie, etc. Donc là, ça faisait du bien. Juste une petite note. 10. Je vois pas quoi lui reprocher à cette série. Donc,
bon, en fait, on a que des très bonnes séries. Et...
Oui.
Ah bah, en fait, c'est très simple. Hein. Quand on a préparé l'émission, c'est je veux te parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça. Bon bah voilà, hein, forcément. Là,
mais c'était...
Je pense que c'est vraiment une émission coup de cœur aujourd'hui.
Ouais, à part Gundam. Le Gundam, c'est une très bonne surprise, là. Je m'attendais
c'était
à.
Une surprise, mais effectivement, c'était pas. Un coup de cœur.
Et Brocéliande aussi. Pour l'instant, c'est une très bonne surprise. On verra à la fin si ça devient un coup de cœur.
Enfin voilà. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on n'aura pas été trop long. Que vous avez pu nous suivre. Que ça vous a fait découvrir des séries. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de grosses séries. Mais à côté, il y a quand même des petites séries que vous connaissiez peut-être pas. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'aller les regarder, de les découvrir, de découvrir encore plus de séries. Merci Nakis d'avoir été là avec nous.
Mais de rien.
Mais de rien, c'est pratique, c'est gentil, c'est mignon. Merci Stalas d'avoir raconté ta vie sur Gundam World Heroes.
Moi, je n'ai raconté que des faits et des références.
C'est vrai. Ça donne envie aussi, cet animé. Et merci à moi-même, j'aimerais remercier parce qu'il faut se remercier dans la vie.
Merci Tipo.
Dites-le-vous. Hein. Et c'est un fait prouvé. Remerciez-vous. Ça fait toujours du bien de se remercier, de se dire merci, de se féliciter. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et ça vous libère des petites hormones, etc. De bonne humeur.
Faites ça juste avant de dormir et vous ferez de beaux rêves.
Ouais, voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Sur ce, continuez à regarder des séries, continuez à découvrir des séries et nous, on se retrouve au mois de septembre parce qu'au mois d'août, on sera en vacances pour le prochain numéro de TARDIS. Ciao.
Bonne nuit.
Ciao.
Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux.
Viens voir ici, c'est un peu la colo.
Où est-ce que vous allez?
L'appel de la distraction.
Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer.
Vous êtes magnifique.
Ah, le bâtard.
Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries.
TARDIS, pour faire court.